BFM Business. Inside avec Karine Verniol.
Bonsoir, il est 18h, bienvenue pour votre rendez-vous d'actualité du soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Et à la une ce soir, Wall Street qui va de record en record, tiré par les valeurs technologiques. Figurez-vous que Apple vaut désormais 2000 milliards de dollars en bourse. On y revient dans un instant. À la une également, la Biélorussie. L'Union européenne ne reconnaît pas la légitimité du président Loukachenko. 11e jour de manifestation contre sa réélection. Le président ordonne de mettre fin à la contestation. Décryptage de la situation sur place avec une experte de la région, ce sera dans une dizaine de minutes. Et puis la rentrée scolaire qui se prépare pour le secteur de la papeterie, le rush c'est maintenant. Ceci dit, ce ne sera pas une rentrée comme les autres. Quelles conséquences pour le secteur? Nous poserons la question aux dirigeants France de Stabilo à 18h30. Pour l'heure, c'est le journal. Le journal, c'est avec Marie Valogne. Bonsoir Marie.
Bonsoir Karine.
Et donc, on commence par regarder du côté de Wall Street. Comment ça se passe aujourd'hui, Wall Street qui hésite un petit peu au lendemain de nouveaux records.
Et oui, hier, record historique pour le S&P 500. L'indice a effacé les pertes subies au début de la pandémie aux États-Unis. On retrouve tout de suite Sabrina Craigiozzi en direct de New York. Sabrina, comment explique-t-on cette euphorie sur les marchés américains ?
Eh bien, écoutez, cela s'explique tout simplement par les mesures de soutien sans précédent du gouvernement américain. Et puis aussi, une hausse qui est portée par l'optimisme sur l'après-pandémie, sur la reprise de cette économie américaine, de l'activité économique. Hier, vous l'avez dit, le S&P 500 a terminé sur un record, mettant fin au plus court bear market de l'histoire américaine, puisque si on regarde, 126 séances pour aller du plus bas, peak to peak, du plus bas à la journée d'hier. Donc, le S&P 500 qui est désormais en hausse de pratiquement 5% cette année. Toutes les titres ont participé à ce joli rebond de valeurs technologiques aux valeurs pétrolières. Tous les investisseurs institutionnels, les petits boursicoteurs qui ont profité de la plateforme Robinhood, c'est tout simple, des investisseurs qui ont été pris dans ce que l'on appelle ici le phénomène TINA, there is no alternative to stock, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix, avec des taux historiquement bas, ce sont les marchés actions qui en ont profité, avec le compartiment tech tout particulièrement bien orienté. Apple, effectivement, là, qui passe aujourd'hui les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est une hausse de 60% pratiquement cette année pour le titre Apple. Belle performance également pour Amazon, tout cela a permis aussi au Nasdaq d'aller de record en record. C'est bien simple, il a affiché 34 records cette année, avec une hausse depuis le début de l'année de 25%, et ça continue donc aujourd'hui, puisqu'on est encore sur un gain pour l'indice Nasdaq, plus 0,4% Karine, et pour le S&P 500, plus 0,3%.
Eh bien merci Sabrina, restez avec nous, on vous retrouve à la fin du journal, jettera un coup d'œil avec vous sur les autres valeurs du jour. À la une également ce soir, cette alliance conclue entre Bernard Arnault et Arnaud Lagardère, Marie.
LVMH a approuvé la prise de participation de 27% du milliardaire au sein de la holding du groupe Lagardère. Son patron espère désormais peser dans les décisions du groupe. C'est en tout cas une nouvelle victoire pour Arnaud Lagardère. Laura Cambeau.
Avec cette prise de participation, c'est une bouffée d'air frais pour la holding d'Arnaud Lagardère et donc pour ses finances. Une partie de ses dettes a été épongée à hauteur de 80 millions d'euros, des dettes qui se chiffraient à 214 millions à la fin de l'an dernier. Cette baisse de l'endettement est cruciale pour Arnaud Lagardère. Selon les statuts de l'entreprise, il est responsable personnellement des dettes de la holding. C'est une nouvelle bonne nouvelle pour le dirigeant, deux jours après son renouvellement à la tête du groupe. Avec le patron de LVMH à ses côtés, il trouve un soutien de poids face à ses deux ennemis et actionnaires principaux, le fonds Amber et Vivendi. Ils avaient tenté d'obtenir des sièges au conseil d'administration sans succès. Malgré ces deux déroutes, ils pourraient continuer de poursuivre leur objectif, tenter de défaire la commandite pour évincer Arnaud Lagardère.
Sans surprise, Joe Biden a été officiellement investi par les démocrates. Il affrontera Donald Trump le 3 novembre à la présidentielle américaine. Joe Biden doit accepter cette nomination jeudi lors du discours de clôture de la convention. Ce soir, Barack Obama doit s'exprimer en soutien au candidat. La convention républicaine se tiendra, elle, la semaine prochaine, également en virtuel. L'Union européenne ne reconnaît pas le résultat de la présidentielle au Bélarus. Déclaration du président du Conseil à l'issue d'un sommet extraordinaire des 27. Charles Michel assure que l'Union est aux côtés du peuple. Des sanctions seront bientôt prises contre un nombre important de dirigeants du régime d'Alexandre Loukachenko. Il les accuse d'être responsables de violences, répressions et fraudes électorales.
Et on reparle de tout ça dans quelques minutes avec Galia Akerman, spécialiste du monde russe et ex-soviétique. L'Union européenne qui a également réagi forcément face à la crise au Mali.
Elle appelle à la libération immédiate des prisonniers et affirme que la lutte contre le terrorisme et la stabilité de la région sont des priorités absolues. Hier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par un coup d'État. Le chef d'État et son premier ministre sont toujours aux mains des militaires. Ces derniers déclarent vouloir mettre en place des élections dans un délai raisonnable. C'est un indicateur de l'économie et du commerce mondial. Maersk tire son épingle du jeu. Ce géant danois est la plus grande entreprise de transport maritime. Et malgré la crise sanitaire, il annonce des résultats en hausse pour le deuxième trimestre. Nathan Cocampo.
427 millions de dollars. Le Danois Maersk a enregistré un bénéfice net multiplié par 3 au deuxième trimestre. Malgré la crise sanitaire et une baisse de 10% de la demande mondiale de conteneurs, la première entreprise de transport maritime a profité d'un environnement qui lui était favorable. D'abord, la concurrence réduite lui a permis de fixer des tarifs toujours élevés. Ensuite, une optimisation de sa logistique et du chargement de ses bateaux pour dégager plus de rentabilité. Enfin, il a bénéficié de la chute du cours du pétrole. De quoi pousser Maersk à rétablir ses prévisions de bénéfices pour 2020 et même à les relever. Mais si le groupe compte en effet sur une reprise de la demande au troisième trimestre, il s'inquiète tout de même des difficultés rencontrées par ses équipages bloqués par des mesures de quarantaine un peu partout dans le monde.
En revanche, toujours sur le plan maritime, Brittany Ferries réduit ses traversées entre la France et l'Angleterre.
La compagnie fait face à une baisse de fréquentation avec la quarantaine britannique. Quarantaine mise en place par Londres pour les voyageurs venant de France. Elle a déjà enregistré 35 000 annulations ou reports de voyages depuis le week-end dernier. Brittany Ferries va aussi mettre en place du chômage partiel pour certains de ses salariés. L'entreprise veut éviter de mettre en service des navires avec peu de passagers à bord. Le masque sera donc obligatoire en entreprise dès le 1er septembre. La décision a été prise hier par le gouvernement face à la hausse du nombre de contaminations au Covid-19 sur les lieux de travail. Les masques seront à la charge de l'employeur, ce que dénoncent les syndicaux. Maëva Lamy.
FDI Habitat compte 200 salariés, dont plus des deux tiers sont aujourd'hui en télétravail. Alors pour continuer à fonctionner, des investissements massifs ont été réalisés, avec notamment l'achat de 100 nouveaux ordinateurs. À cela va donc s'ajouter le coût des masques, bientôt obligatoire pour tous les salariés. Des investissements coûteux, explique Dominique Guérin, directeur général du groupe FDI Habitat.
Le gel, les masques, les plexiglas, nous sommes déjà à 46 000 euros d'investis. Nous devons, ayant 200 collaborateurs dans le groupe, avec deux masques par jour, on est sur un stock de 10 semaines à 20 000 masques. Donc c'est vrai que ça a un coût.
Car le coût du masque est bien à la charge de l'employeur. Si on y ajoute les autres mesures sanitaires, cela revient à 100 euros par mois et par salarié. Des dépenses qui nécessitent une aide du gouvernement, selon Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des très petites entreprises.
C'est des sommes qui sont relativement importantes. À partir du moment où vous allez les pérenniser sur un temps qui n'est pas défini à ce stade, beaucoup d'entreprises ne vont pas avoir la capacité de pouvoir maintenir dans leur trésorerie ce type de budget de manière constante. Si cette dépense est pérennisée, il est important qu'elle soit assumée et par l'État ou les collectivités locales. Ça nous semble juste.
Pour le moment, un seul dispositif d'aide existe pour les entreprises de moins de 50 salariés. Une subvention plafonnée à 5 000 euros versée par la Sécurité sociale.
Et puis allez, un mot de foot pour terminer avec le PSG proche du Graal.
Oui, près de 10 ans après le rachat du club par le Qatar, l'équipe emmenée par Thomas Tuchel n'a jamais été aussi proche de gagner la compétition de football la plus prestigieuse d'Europe. Et ceci pour le plus grand plaisir des investisseurs. Léonard Cassette.
C'est une finale qui sonne comme l'aboutissement d'une longue période de disette pour les investisseurs qataris. Racheté en 2011 par Qatar Investment Authority, le PSG est devenu le cinquième club le plus riche de la planète et domine incontestablement le championnat national. Pourtant, il a toujours eu un parcours chaotique en Ligue des Champions. Le club a donc fourni des efforts financiers conséquents en dépochant notamment Neymar pour 222 millions d'euros ou encore Mbappé pour 180 millions. Le Parc des Princes a été rénové et des travaux ont été lancés pour un nouveau centre d'entraînement. Au total, c'est plus de 1 milliard d'euros qui a été investi au fil des ans, avec un objectif majeur, remporter la Ligue des Champions. Depuis 2011, notre rêve était la Ligue des Champions. On est proche de notre rêve, exprimait hier le président du club au micro de RMC. Soulever la coupe dimanche permettrait donc au Qatar d'en finir avec les déceptions et d'empocher la somme record de 137 millions d'euros.
Autre demi-finale à suivre ce soir, l'Olympique Lyonnais affronte le Bayern Munich pour une place en finale.
Eh bien, voilà, ce ne sera pas à suivre sur BFM Business, mais forcément, on vous en parlera à un moment donné. Merci beaucoup, Marie Vallone. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Nous, on fait un point sur les marchés. Et à Paris, eh bien, le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,79% à 4 977 points. On n'est pas exactement dans la même flambée qu'à Wall Street, même si c'est un petit peu hésitant aujourd'hui, hein, Sabrina Quagliotti, vous nous le disiez tout à l'heure.
Oui, effectivement, bon, on progresse, mais des progressions qui sont quand même assez mesurées, plus 0,3% sur l'indice Nasdaq qui continue sur sa lancée avec de nouveaux records, 11 248 points, le Dow Jones. Il se reprend après avoir pas mal hésité sur les précédentes séances. On est désormais en hausse, plus 0,2%, 27 842 points. Le S&P 500, là, part à l'assaut des 3 400 points, 3 397 points pour le moment, plus 0,23%. Des marchés qui apprécient bien sûr les annonces en provenance des entreprises, des résultats dans le secteur du retail avec Target après Walmart hier qui a publié des chiffres nettement supérieurs aux attentes. Alors porté cette fois-ci, non pas par les mesures de soutien, tient l'économie, hein, les chèques envoyés aux Américains ou encore les allocations généreuses, chômage généreuses, mais par eh bien, le fait que les Américains ont annulé leurs vacances. Du coup, bah, ils avaient de l'argent en poche pour aller faire de leurs courses dans les magasins Target, qui donc est en hausse depuis ce matin, une belle hausse même, plus 11%. Vous avez Lowe's dans le bricolage qui a également publié ses résultats trimestriels, a aussi une forte hausse des résultats, du chiffre d'affaires et un titre qui prend 0,5%. On parle beaucoup également du chapitre M&A avec Johnson & Johnson qui met la main sur la biotech Momenta Pharmaceutical. Celle-ci prend 70%. Et puis, bien sûr, le chapitre TikTok, les opérations américaines. Qui va réussir à mettre la main sur ces opérations américaines? Oracle, Twitter ou Microsoft? C'est la question. Un compartiment tech qui, d'ailleurs, est encore bien orienté. Apple qui franchit donc les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et Tesla, Karine, Tesla qui continue aussi puisqu'on est encore en hausse. Plus 0,8%, on est à 1902 dollars sur le titre.
Eh bien voilà, et Tesla toujours dans la course, si j'ose dire. Merci beaucoup Sabrina, on continue à suivre ça avec vous. On vous retrouve dans une heure sur BFM Business. Restez avec nous dans un instant. Nous parlerons de la Biélorussie. Et oui, sommet extraordinaire de l'Union européenne. Aujourd'hui, les 27 ne reconnaissent pas la victoire du président Loukachenko. On va voir quelles seront les sanctions et ce qui peut se passer maintenant sur place avec Galia Ackermann. À tout de suite.
BFM Business Inside avec Karine Verniolle.
Et donc en Bélarus, les taux se resserrent autour du président, sur le président Alexandre Loukachenko. L'Union européenne tenait un sommet extraordinaire sur le sujet aujourd'hui. Et les 27 ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité du président réélu. Ils s'apprêtent également à sanctionner de nombreux dirigeants. Galia Ackermann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Donc, on le rappelle, président de la Biélorussie depuis 1994, Alexandre Loukachenko a été réélu pour son sixième mandat le 9 août, officiellement avec plus de 80% des suffrages. Évidemment, c'est une réélection très contestée qui a donné lieu à de nombreuses journées de manifestations, de heurts également entre policiers et manifestants. L'Union européenne se dit aux côtés du peuple et va bientôt imposer des sanctions sur un nombre substantiel de personnalités, on nous dit aujourd'hui. Est-ce que c'est la réaction que vous attendiez ?
Je crois en tout cas que c'est une réaction complètement méritée par le régime de Loukachenko, mais il faut dire que les sanctions personnelles souvent n'ont pas beaucoup d'importance pour les dictatures parce que dans le régime de Loukachenko, ni lui-même, ni probablement les gens qui lui sont proches n'ont pas nécessairement des comptes en banque à l'étranger. Je pense que si même ils en ont, c'est par des amis, des proches, etc., etc. Et donc, quelles peuvent être les sanctions, l'interdiction de visiter l'Union européenne, l'interdiction d'y détenir leur argent, mais tout ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, une action symbolique très forte. Mais en fait, pour que le régime souffre réellement, il faut, comme pour la Russie, des sanctions sectorielles.
Mmh. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des sanctions d'ordre économique ?
Oui, bien sûr. Par exemple, interdire certaines importations, certaines exportations, etc., etc. Créer des difficultés aux banques biélorusses. Ça, c'est des choses qui peuvent avoir un impact. Mais vous voyez aussi, avec l'exemple de la Russie, que à partir de 2014, il y a déjà 6 ans, que les sanctions de l'Union européenne, de tous les pays occidentaux, dont les États-Unis, sont renouvelées, renforcées, etc., etc. Ça crée des problèmes à la Russie et néanmoins, pour l'instant, le régime de Poutine tient. Je dirais qu'en règle générale, nous l'avons bien vu, par exemple, avec la Syrie et avec le Venezuela, les régimes dictatoriaux tiennent tant que l'armée et les services de sécurité, les services spéciaux, restent fidèles. Et je dois dire que maintenant, bien sûr, il y a eu 10 jours de protestation. Il y a aussi des grèves très importantes dans plusieurs secteurs clés de l'économie biélorusse. Et justement, hier, Loukachenko a décerné des décorations à 300 officiers des services spéciaux et de l'armée qui ont participé à mater la rébellion. Tant que la force est avec Loukachenko, je crains qu'il sera assez difficile de le déboulonner. Mm-hmm. La fin de ce régime s'approche, mais peut-être pas tout de suite.
Et oui, effectivement, tant que l'armée, tant que la force est encore du côté du pouvoir, ça peut être compliqué, malgré les sanctions économiques. On rappelle que le Bélarus est toujours sous le coup d'un embargo sur les ventes d'armes et de matériel pouvant être utilisé pour la répression, mais ça ne l'entache pas vraiment. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, Galia Ackermann, sur quoi repose l'économie bélarusse? Si je ne m'abuse, c'est une économie qui dépend énormément, de toute façon, de Moscou aujourd'hui.
Absolument. Vous savez, la Biélorussie, à l'époque soviétique, quand elle était une république soviétique, a été un peu l'équivalent de l'Allemagne de l'Est pour le reste du soi-disant camp socialiste, c'est-à-dire les pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. C'était en quelque sorte un pays modèle qui a été énormément détruit pendant la guerre. Et après la guerre, l'industrie très performante a été construite. Par exemple, la Biélorussie fournissait les tracteurs ou les camions pour toute l'Union soviétique. Et à ce jour, il y a beaucoup d'entreprises biélorusses et justement des secteurs de pointe qui contribuent très fortement à fournir soit les pièces, soit des armements à la Russie. Il y a à peu près 25% des exportations biélorusses qui sont dans des secteurs de l'industrie lourde et des armements et dont la Russie est l'acheteur principal. Et d'ailleurs, maintenant, la Russie menace déjà le complexe militaro-industriel russe, menace la Biélorussie de sanctions pour la non-livraison de pièces qui sont attendues et qui sont nécessaires pour la bonne performance du secteur militaire russe.
Sachant que... Ouais, sachant que Moscou fournit du gaz et du pétrole fortement à la Biélorussie avec des conditions financières très intéressantes. Et ce dont on s'aperçoit, et c'est peut-être aussi pour ça que les sanctions économiques ne peuvent pas être très importantes sur la Biélorussie venant de l'Union européenne, c'est que finalement il y a très peu d'échanges entre l'Union européenne, finalement entre les autres pays d'Europe et la Biélorussie. Je parle d'échanges commerciaux.
Il y a quand même un secteur où il y a pas mal d'échanges, c'est-à-dire, en effet, la Russie reçoit aussi bien le gaz que le pétrole en grande partie de la Russie. Et, par exemple, les appels diversifiés qu'on attend, par exemple, de la part de la Pologne, les appels à la Biélorussie de diversifier ses livraisons de gaz et de pétrole, c'est très difficile de mettre en œuvre. Parce que la Biélorussie, il ne faut pas oublier qu'il existe une union supranationale entre la Russie et la Biélorussie qui, à terme, doit amener une fusion complète entre les deux pays. Et donc, la Russie fournit à la Biélorussie, par exemple, le pétrole brut que la Biélorussie transforme en produits pétroliers dans ses usines pétrochimiques et revend ensuite à d'autres pays, notamment à l'Europe, mais la Biélorussie pourrait éventuellement aussi diversifier ses ventes si l'Union européenne impose des sanctions. Et donc, en grande partie, l'économie de la Biélorussie est fondée sur ces prix très privilégiés pour le gaz et le pétrole en provenance de la Russie.
Et oui, et donc assez peu d'échanges avec l'Union européenne finalement. Donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, on ne sait pas encore ce que vous disiez, Galia Ackermann, en début d'entretien, c'est que on sent que quelque chose bouge, mais ça ne devrait pas être tout de suite. Loukachenko ne devrait pas être renversé tout de suite. Mais finalement, est-ce que c'est pas la Russie qui sortira de toute façon gagnante de ce conflit?
C'est ce que j'ai essayé de dire dans un entretien que j'ai publié sur Figaro Vox. Je pense qu'il est très probable, malgré le fait que ces protestations maintenant sont très massives et des millions de personnes sont mobilisées, la fraude a été totalement évidente. C'est un petit pays, on ne peut pas tout cacher. Mais il faut dire que si Loukachenko tombe, il ne faut pas l'oublier, si Loukachenko tombe, Poutine sera le suivant. C'est-à-dire, Poutine a le rêve de réunir les peuples slaves, les Biélorusses et les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ça n'a pas marché jusque-là, sauf l'annexion de la Crimée et la guerre fomentée dans le Donbass. Mais la Biélorussie a été considérée jusque-là comme quelque chose de plus ou moins acquis. Maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout acquis, mais Poutine doit être maintenant devant un affreux dilemme, soit intervenir s'il le faut en Biélorussie et donc se soumettre à des sanctions encore plus drastiques, alors que là, contre la Russie, il y a déjà des sanctions sectorielles très lourdes, ou bien le risque de perdre la Biélorussie, et ce sera probablement le début des dominos qui tombent.
Et l'information que nous avons aujourd'hui, selon Charles Michel, c'est que la Russie n'a pas l'intention d'intervenir militairement en Biélorussie. C'est ce qui est dit aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. On va continuer à suivre ça de très près. Merci, Galia Ackermann, pour votre décryptage de cette situation en Biélorussie. Je rappelle que vous êtes spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Retour en France avec ces grands chantiers qui vont préparer la reprise et le fameux chantier du Grand Paris Express. On en est où ? Réponse avec Jean-Baptiste Huette.
BFM Business, les grands chantiers de la reprise. Jean-Baptiste Huette.
Technologie, infrastructures de transport, numérique, espace, tout l'été on va évoquer ces grands chantiers français ou européens qui se construisent sous nos yeux et qui préparent le monde d'après. Aujourd'hui, sans doute, le plus grand chantier du siècle, le Grand Paris Express. Il s'agit de construire tout un ensemble de lignes de métros automatiques autour de Paris. Livraison étalée entre 2024 et 2030. 200 km de nouvelles lignes, 68 gares. C'est un projet qui dépasse déjà les 30 milliards d'euros. L'objectif, c'est bien sûr de mieux irriguer le Grand Paris. Les Yvelines, la Défense, Orly, le Bourget, Charles de Gaulle, le plateau de Saclay, mais aussi de décharger les réseaux de transport actuels qui saturent. On attend en effet plus de 2 millions de passagers par jour sur ce nouveau réseau, avec la création des lignes 15, 16, 17, 18 et la prolongation de la 11 et de la 14. Travaux d'infrastructure titanesques. Au plus fort du chantier, 21 tunneliers se sont croisés dans les sous-sols de l'Île-de-France. Il faut slalomer dans des sous-sols qui sont constitués de sable, d'argile, de calcaire, parfois à 50, 70 mètres de profondeur. Il a même fallu parfois congeler le sous-sol à moins 35 degrés pour éviter les effondrements dans les tunnels. Il est même arrivé sur le chantier de la ligne 14 que certains tunnels se retrouvent submergés par une colonne d'eau de 20 mètres de haut. Ce sont des dizaines de milliers de tonnes de gravats qu'il a fallu trier, évacuer et recycler. Un véritable défi technique et logistique qui mobilise plus de 1000 PME et puis bien sûr les grands majors du BTP français, Bouygues, Vinci et Fage. Un vrai projet d'infrastructure, d'organisation du territoire, de maîtrise des flux. L'idée maîtresse, c'est bien de redessiner la carte du temps autour de Paris. Un étudiant en médecine de Clichy-Montfermeil a besoin aujourd'hui d'une heure et demie pour rejoindre sa faculté de Créteil. Demain, il fera le trajet en moins de 20 minutes. Pourquoi les Parisiens ne viendraient pas profiter de l'opéra de Massy, dont la programmation et l'acoustique sont unanimement reconnues? Eh bien, ce sera bientôt à 15 minutes en métro du centre de Paris. Oui, c'est un projet local, Paris-Île-de-France, mais dont les retombées en termes d'attractivité, d'efficacité, eh bien, doivent rejaillir sur toute l'économie française.
Voilà, c'était les grands chantiers de Jean-Baptiste Huet. Restez avec nous bientôt 18h30 sur BFM Business. Un rappel de titre. Et puis, eh bien, on commence à parler de la rentrée scolaire, forcément. Et on a un peu des incertitudes sur la façon dont elle va se passer. Alors, forcément, du côté des fournitures scolaires, du côté du secteur des fournitures scolaires, des papetiers, des vendeurs de stylos, eh bien, on s'inquiète un peu. Témoignage dans un instant avec le dirigeant de Stabilo.
BFM Business Inside avec Karine Verniolle.
La rentrée scolaire aura donc bien lieu le 1er septembre. Dans quelles conditions, en revanche, ça, on ne le sait pas encore. Toujours est-il que le secteur des fournitures scolaires est, lui, en pleine effervescence. C'est à peu près la moitié de son chiffre d'affaires hein, qui se joue en ce moment. C'est bien ça, Christophe Leboulicot, bonsoir.
Oui, bonsoir. En effet, c'est bien cela.
Vous êtes le dirigeant France de Stabilo. Vous êtes également vice-président de l'Association des industriels de la papeterie et président de l'UFIPA qui rassemble les différentes composantes de la filière papetière, donc fabricants, mais aussi importateurs, grossistes, distributeurs. Tout ça pour dire que vous représentez le secteur tout seul. Et donc, quelles sont les tendances des ventes? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, ça se passe comme d'habitude pour les ventes de fournitures scolaires?
Alors oui, je pense que ça se passe comme d'habitude. C'est vrai que ça peut surprendre de premier abord. Néanmoins, quand on regarde le mois de juillet, si on parle de la rentrée des classes, parce que c'est vrai que sur la période qui a précédé, c'était un petit peu différent, mais si nous parlons de la rentrée des classes, on observe aujourd'hui une tendance de fond qui s'accentue un petit peu, à savoir un report du pic des ventes plutôt sur la fin de la saison, c'est-à-dire sur la fin de la rentrée des classes. Pour nous, à savoir fin août. C'est vrai que le mois de juillet a été en léger retrait, enfin en fort retrait même par rapport à l'année dernière, mais c'est une tendance qu'on a déjà constatée les années précédentes, qu'on explique en plus cette année certainement par un effet indirect au Covid, qui est le fait que tous les produits d'extérieur, de jardin, etc., sont restés un peu plus longtemps en magasin sur le mois de juillet. Donc, les produits de fourniture scolaire ont pris leur place ensuite. Donc, les produits de fourniture scolaire sont arrivés un peu plus tardivement dans les rayons cette année. Mais globalement, je dirais que cette tendance de report de vente plutôt sur la deuxième quinzaine d'août et première semaine de septembre qu'on a pu constater les années précédentes se confirme cette année.
D'autant qu'il y a l'allocation de rentrée scolaire qui vient d'être versée, il y a ça aussi qui peut jouer. Est-ce que les consommateurs, justement, recherchent encore davantage et de plus en plus chaque année, les prix encore particulièrement plus cette année ?
Alors oui, bien évidemment que le prix reste un paramètre, un critère d'achat important, mais ce n'est pas le premier critère d'achat. Une étude récente montre que le premier critère d'achat pour les parents reste la qualité des produits. C'est-à-dire que 95% des parents considèrent aujourd'hui que c'est leur premier critère d'achat et c'est également un critère de pouvoir d'achat. Parce qu'en tout cas, c'est ce que nous prenons, nous, au sein de l'AIPB. C'est des produits de qualité qui soient durables et qu'on soit pas obligé de les racheter tous les deux mois parce que soit les stylos seront secs ou les tubes de colle détériorés.
Donc j'imagine qu'effectivement, voilà. Vous prêchez pour votre paroisse, vous qui représentez des grandes marques, on l'imagine bien. Ceci dit, il y a le déclaratif et il y a ce qui se passe dans les faits. D'ailleurs, on voit qu'il y a de moins en moins d'achats dans les hypermarchés, finalement, au fil des années. Eh bien, la distribution en hypermarché des fournitures scolaires se réduit un petit peu plus. Où achète-t-on ces fournitures scolaires aujourd'hui ?
Alors oui, c'est vrai qu'on constate, on constate un glissement, je dirais, dans les achats de la fourniture scolaire des hypermarchés vers d'autres circuits spécialisés online ou offline. Néanmoins, il faut garder en tête quand même que les hypermarchés, supermarchés représentent encore 75% des achats de rentrée des classes en France. Donc ça reste quand même le circuit principal aujourd'hui, mais il est vrai que des circuits spécialisés, que ce soit des chaînes de magasins culturels ou des superstores plutôt orientés office et des sites internet qui soient spécialisés ou généralistes, aujourd'hui proposent une offre entrée des classes qui est attractive et compétitive pour les familles. Oui, tout à fait.
Christophe Le Boulicot, Carrefour a communiqué justement sur une rentrée scolaire avec moins d'emballage. Comment vous, industriel, avez-vous travaillé sur le sujet ? Est-ce que c'est une véritable préoccupation pour vous ?
Oui, c'est une véritable préoccupation pour l'ensemble des acteurs de la fourniture de bureaux et de la fourniture scolaire. Ce virage RSE ou écologique, on va dire qu'on l'a pris quand même depuis maintenant de nombreuses années. L'AIPB représente 145 marques environ, des grandes marques, comme vous le disiez. Il faut savoir que 94% de nos adhérents aujourd'hui ont pour objectif de réduire l'utilisation de ressources naturelles, que ce soit bois, l'eau, etc. Réduction des plastiques également dans les packaging, vous le verrez dans les rayons. La mise en place de gammes que l'on va appeler un peu plus écologique et responsable, avec moins de plastique ou du bioplastique, des emballages carton plutôt que plastique. Donc voilà, en tout cas, il y a d'importantes initiatives qui sont menées au niveau de la profession. C'est pas simple, hein, parce qu'on reste quand même une industrie de plastique. Hein, donc il faut se réinventer, il faut innover et ça se passera. C'est ce qui créera aussi la croissance de notre marché dans les prochaines années.
Et ça, justement, à propos d'innovation, est-ce que certains d'entre vous, ou vous-même chez Stabilo, avez réfléchi, alors pardon, j'ai pas vraiment d'idée sur la question, mais sur des produits un petit peu anti-Covid ou des produits qui permettraient de moins transmettre ce fameux virus. Est-ce qu'il y a eu des réflexions là-dessus ?
Alors dans la fourniture de bureau, c'est très large. Hein. C'est vrai que ou la fourniture scolaire, on va penser stylo, papier, classement, etc. Mais c'est également ce que l'on appelle les équipements de protection individuelle. Donc ça va du masque jusqu'aux parois plexiglas hein, que l'on peut installer dans les bureaux, dans les salles de réunion, en passant par le gel, etc. Donc là, aujourd'hui, nos partenaires distributeurs proposent d'ores et déjà cette offre qui est très large à l'ensemble des entreprises. Concernant la papeterie en tant que telle ou la fourniture de bureau, petite fourniture de bureau telle que l'écriture, oui, il existe des stylos déjà qui permettent d'éviter ce type de contamination, c'est par exemple les stylets, les stylos stylets qui permettent d'agir de manière tactile sur les écrans sans devoir
mettre ses doigts. Sans que tout le monde touche le même écran.
Voilà, exactement. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une réflexion globale ? Pour l'instant, non, parce que aujourd'hui, c'est plutôt incertain sur le Covid.
Oui, ben c'est effectivement très incertain. Est-ce que, par exemple, je pense, parce que vous adressez aux enfants, je crois que du côté de chez Stabilo, vous avez sorti des couleurs pastels qui font rêver certaines petites filles. Est-ce que vous avez réfléchi à élargir votre palette ? Je crois que cette entreprise qui est basée en Allemagne a déjà pas mal de cordes à son arc. Par exemple, à distribuer du gel hydroalcoolique, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va devoir mettre en place. Alors, dans les bureaux, bien sûr, mais aussi dans les écoles, dans les collèges, si on propose à tous ces enfants, peut-être, des petites portions de gel hydroalcoolique qui iront dans leur trousse. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de les pousser au bon geste ?
Alors, concernant Stabilo, nous avons pas mal de projets dans les cartons pour les temps futurs, parce que c'est clair que c'est l'innovation produit qui a porté notre développement tout au long de notre histoire. Néanmoins, sur le gel hydroalcoolique, là, je peux apporter une réponse claire. Non, nous ne lancerons pas de gel hydroalcoolique Stabilo, parce que ce n'est pas du tout notre métier. Et aujourd'hui, l'offre existante est déjà très, très large et de qualité. Elle est proposée par l'ensemble des distributeurs, des fournisseurs, des fournituristes scolaires, des fournituristes de bureaux. Donc l'ensemble des cibles, entre guillemets, peut aujourd'hui avoir ce type de produit en main. Donc dans les écoles, nul doute qu'il y aura du gel hydroalcoolique lors de cette rentrée des classes.
Mais c'est peut-être aussi l'occasion justement dans les rayons fournitures scolaires de glisser les gels hydroalcooliques et les masques pour rappeler effectivement les bonnes règles sanitaires. En revanche, vous avez bien fait de l'eyeliner avec Sephora chez Stabilo, donc vous osez un peu tout. Est-ce que ça a marché ça?
Alors, il faut savoir que Stabilo, c'est un groupe avec trois divisions différentes, une division écriture que je représente aujourd'hui ici en France, et une division cosmétique qui n'a rien à voir avec la division écriture. Et le produit auquel vous faites référence a été lancé par notre division cosmétique et la division écriture n'était pas du tout, je dirais, engagée dans ce développement produit ni dans le lancement de ce produit. Je sais seulement que c'était un produit. C'était une expérience test avec l'enseigne que vous avez citée. Ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, ça a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair.
Allez, pour terminer plus sérieusement, Christophe Leboulicot, du coup, dans quel état d'esprit est votre filière, votre secteur aujourd'hui ? Vous le disiez, finalement, pour l'instant, cette rentrée scolaire, mais tout se joue maintenant. Finalement, pour vous, ça se passe un petit peu comme d'habitude. Durant le confinement, vous avez bénéficié de toutes ces personnes qui travaillaient à domicile. Au final, comment vous voyez cette année 2020 pour votre secteur ?
Alors, c'est clair qu'on a traversé une période difficile pendant le confinement, puisqu'on a quand même perdu pas mal de business. Clairement, on a connu un mois d'avril à moins 35 ou moins 40%, et pour certains acteurs à moins 70, voire moins 90%. Donc ça a été complexe. Néanmoins, là, si on se recentre sur cette rentrée des classes, bien évidemment que le contexte est compliqué. Je vous apprendrai rien. Là, il y a beaucoup d'incertitudes. On en parlait tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que moi, je reste confiant par rapport à cette rentrée des classes, dans le sens où les distributeurs ont mis en place toutes les mesures nécessaires, les mesures sanitaires pour accueillir dans de bonnes conditions leurs clients. L'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit distributeurs et industriels, se sont mobilisés sur le premier semestre, hein, malgré le confinement, pour pouvoir proposer une offre normale, entre guillemets, et de qualité sur cette rentrée des classes, pour que les parents puissent trouver les bons outils pour leurs enfants pour cette année scolaire. Et Dieu sait que c'était pas évident, puisque tout cela demande, cette rentrée des classes demande toujours une désorganisation ad hoc, importante au niveau de la chaîne d'approvisionnement, notamment. Au-delà de tout ça, moi, je reste convaincu que, mais c'est très personnel, que les achats rentrée des classes restent un moment important pour les familles. Ça a toujours été quelque chose de très, très impliquant pour les parents, pour les enfants. Je crois qu'on garde tous des souvenirs très, très personnels, voire très émouvants parfois de ce type de moment de rentrée des classes. Donc, moi, je suis plutôt confiant, et qu'après une fin d'année scolaire un peu chaotique quand même, cette période d'achat rentrée des classes peut représenter certainement une belle occasion pour les familles de se faire plaisir, de marquer le coup pour engager cette nouvelle année scolaire. L'année 2020 sera différente et compliquée, bien évidemment, pour certains acteurs.
Merci beaucoup à vous, Christophe Le Boulico, directeur général France de Stabilo, également président de l'UFIPA et vice-président de l'Association des industriels de la papeterie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, c'est l'occasion de nous rapprocher de la Chine. Justement, vous parliez des approvisionnements. On imagine qu'il y en a un petit peu qui vient de Chine. C'est Chine Echo, tous les soirs avec Erwan Maurice, qui reçoit un chef d'entreprise. Aujourd'hui, Samuel Richer, il est fondateur d'Octobot, un moteur de recherche qui référence les entreprises chinoises pour tout connaître sur elles. Écoutez.
Chine Echo.
Nous, à Octobot, on a développé en fait un programme qui permet, c'est l'idée de la pieuvre qui va chercher partout de l'information sur le web chinois, dans les bases de données.
C'est tellement immense que voilà, tout seul, on a du mal.
Voilà, à la main, c'est infini, c'est très complexe. Donc on a ce programme qui va chercher partout de l'information, qui la rassemble, qui synthétise et qui produit des rapports pour nos clients sur des sociétés chinoises.
Ah ouais, donc ça très utile, ça rassure les chefs d'entreprise.
Ça rassure et ça permet de savoir à nos clients à qui ils ont affaire, que ce soit un client, un prospect, un concurrent.
Octobot, donc, et là, vous venez de lancer un nouveau service, un moteur de recherche, OctoCheck. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Exactement. Alors, OctoCheck, c'est un moteur de recherche donc accessible à tous en ligne. Vous tapez OctoCheck dans Google, vous allez nous trouver. Et donc, c'est un moteur de recherche qui vous permet de chercher des informations en anglais sur des entreprises chinoises. Donc, vous cherchez, vous mettez le nom anglais de l'entreprise qui vous intéresse et vous avez une petite fiche descriptive qui va vous dire si la société existe, son nom en chinois, la date de création, le secteur d'activité, etc.
C'est la fiche d'identité, la carte d'identité, de l'entreprise.
Exactement.
Avec des informations vérifiées.
Avec des informations vérifiées. Alors, on n'est pas exhaustif. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les entreprises chinoises, on se concentre sur les entreprises qui sont actives à l'international.
Combien d'entreprises ?
On en a 3 millions entre la Chine et Hong Kong, donc c'est une grosse base de données, grosse base de données. Et c'est une information vérifiée donc en chinois qu'on a traduit automatiquement et qu'on a mis en ligne à la disposition de nos utilisateurs.
Service gratuit ?
Service gratuit, tout le monde peut aller chercher l'information. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez commander un rapport en ligne sur le site.
C'est-à-dire, alors vous nous disiez aussi que c'est en anglais, donc on n'a pas aussi à faire le travail de traduction, souvent très compliqué, parce qu'on sait que les Chinois ont un peu du mal quand même avec l'anglais, il faut bien le dire.
Oui.
Et c'est toujours compliqué d'avoir un contact, il y a cette barrière culturelle. Là, c'est vous qui gérez tout ça.
Alors on gère tout ça, et souvent on s'est rendu compte aussi pour nos clients qu'ils avaient du mal même parfois à identifier la structure légale de l'entreprise, parce que vous avez eu un nom en anglais au détour d'une conversation sur l'entreprise, et vous n'avez aucune idée de comment ça s'écrit, si c'est vraiment cette entreprise. Donc là, c'est une première porte d'entrée pour checker l'entreprise, voir si elle existe et avoir quelques infos sur cette dernière.
Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on va avoir comme information les actionnaires, les investisseurs, le patron
Alors tout ça, ça va être de l'information payante pour aller plus loin. Donc vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Il y a une version payante. Évidemment.
Ouais.
Donc là, vous avez tout l'actionnariat, la réputation dans la presse, les procès, les marques déposées, les brevets, l'information économique et financière. Enfin, ça va très très loin.
Mmh.
Et donc là, sur ces petites fiches d'identité, vous allez avoir le nom, l'activité, où est-ce qu'elle se trouve en Chine, etc.
Donc c'est une base de données qui est mise à jour.
C'est ça. C'est enrichi quotidiennement. En fait, on a nos robots qui vont sur le web et qui vont chercher partout les noms anglais des entreprises chinoises, parce que c'est ça le nerf de la guerre.
Donc il y a une partie gratuite, une partie payante si on veut aller plus loin.
Voilà.
Et si cette entreprise vraiment elle m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus.
Exactement.
À partir de là, comment on fait
vous appuyez sur un bouton et vous avez le rapport qui est livré par mail. Souvent entre 1 à 5 jours en fonction du type de rapport.
Mais donc combien on paye ?
Alors vous pouvez payer entre 100$ et 700$.
D'accord.
Donc 100$ pour vraiment une petite information très basique. Et pour 700$, vous avez toute l'information dont vous pouviez rêver sur l'entreprise.
À qui ça s'adresse en priorité, Samuel Richer ? C'est pour les chefs d'entreprise qui ne sont pas encore en Chine et qui veulent s'internationaliser ?
C'est assez varié. Ça peut être effectivement les chefs d'entreprise, de petites entreprises qui veulent avoir de l'info en Chine. Mais parfois, on a eu aussi des grands comptes qui voulaient avoir juste une information sur une entreprise qu'ils avaient vue. Ça peut être des cabinets d'avocats, ça peut être... Enfin, c'est très très varié en fait. Et même des entreprises en Chine sur leurs concurrents, par exemple.
Ah ouais. Ils vous connaissent déjà ?
Et ils nous connaissent. Alors, on a très peu de clients chinois, mais on a eu des clients qui sont déjà en Chine et qui voulaient l'information sur des concurrents.
Ça va être une manière aussi de rassurer les patrons. Vous jouez là sur la fiabilité, parce que souvent, comme on le disait, c'est assez flou les infos qu'on trouve là-bas.
Bah, c'est assez flou, et puis quand on parle pas la langue, on sait jamais vraiment la qualité de l'information. Mmh. Est-ce que c'est l'information légale ? Est-ce que c'est du déclaratif de l'entreprise ? Est-ce que l'entreprise a des capacités de production ? Est-ce que c'est une petite entreprise ? Ouais. Donc nous, on est là pour rassurer, pour apporter ce complément d'information à nos clients.
BFM Business Inside avec Karine Verniol.
On poursuit notre balade à l'international, direction Francfort. Tout de suite en Allemagne, les nouvelles contaminations comme en France sont en hausse. Pas question donc de relâcher la pression sur les règles sanitaires, a indiqué hier la chancelière Angela Merkel. Frédéric Balm, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur régional Europe continentale du groupe SOS, un groupe qui protège les collaborateurs dans le monde entier grâce à des solutions personnalisées de gestion des risques santé et de sécurité. Eh bien, forcément, votre activité a évolué avec l'évolution du Covid. Au départ, vous vous intéressez surtout à la protection des voyageurs d'affaires, des salariés qui bougent. J'imagine que ça a été moins le cas ces derniers mois.
Oui, tout à fait. Alors, on a eu des aspects très contradictoires dans cette phase. D'un côté, on a eu beaucoup de salariés qui ont souhaité, des salariés de nos clients qui ont souhaité être évacués de manière sanitaire au début de la crise. Donc, on a eu une activité d'évacuation sanitaire qui est restée très soutenue, mais qui est devenue beaucoup plus complexe du fait du contexte. Et de l'autre côté, effectivement, alors que notre vocation, c'était d'aider les organisations à surmonter les défis sanitaires et sécuritaires auxquels étaient confrontés leurs salariés. Évidemment, dans le contexte de cette mobilité qui a pris un sérieux coup dans l'aile ces derniers mois, nous avons très rapidement réagi pour revoir notre offre. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement, si on revoit nous de notre perspective? C'est simplement que ces risques sanitaires et sécuritaires, ils se sont déplacés au cœur de l'activité des entreprises. Et alors qu'ils menaçaient principalement les salariés mobiles, les voyageurs d'affaires, les expatriés, ces risques sanitaires et sécuritaires se sont déplacés au cœur de l'activité des entreprises, leurs bureaux, leurs magasins, leurs sites de production. Et donc, c'est là que, très vite, on a lancé une offre qui permettait à nos clients d'être accompagnés dans cette reprise d'activité, dans la surveillance des risques, et pour, au plus fin, mettre en place des solutions qui correspondait à tel ou tel besoin.
Effectivement, vous avez donc adapté votre Frédéric Balm. Vous savez qu'en France, on parle beaucoup du port du masque en entreprise depuis quelques jours. Qu'en est-il en Allemagne? Quelles sont les règles dans votre entreprise? Je ne sais pas combien vous avez de salariés. Mais par rapport à cette épidémie de coronavirus?
Écoutez, nous, on avait effectivement anticipé dans le courant de l'été, donc le port du masque est devenu obligatoire chez nous, dans les bureaux, depuis à peu près deux semaines. Je pense que l'annonce qui a été faite hier en France suit le cours logique des choses. C'est-à-dire qu'on voit cette épidémie se relancer, cette fameuse deuxième vague arriver. Et donc, le sujet, c'est comment les entreprises s'y préparent en France et à l'international. Moi, ce qui me frappe ici en Allemagne, c'est la volonté malgré tout de toute entreprise de repartir. Je peux vous livrer une anecdote. J'ai une entreprise allemande aujourd'hui qui nous a demandé comment ils pouvaient renvoyer 20 à 30 ingénieurs en Inde. Et donc là, on est obligé de prendre vraiment toute la palette du problème, c'est-à-dire avant qu'ils partent pour comprendre la situation de ces salariés d'un point de vue médical. Pendant le voyage, est-ce qu'ils vont pouvoir traverser les frontières, voyager, être soumis à des quarantaines ou pas? Et puis sur place, est-ce qu'ils auront la possibilité de s'assurer que tous les protocoles sanitaires sont en place, au pire des cas de se faire tester et au pire du pire des cas de se faire évacuer. Donc vous voyez, c'est vraiment un exemple très concret de comment on aide vraiment les entreprises aujourd'hui à pas tomber à l'arrêt malgré le contexte qu'on
malgré l'impératif des règles sanitaires. Vous le dites bien. Très rapidement, pour terminer, Frédéric Balm, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que du coup, cette préoccupation de la sécurité sanitaire des salariés, elle devient l'objectif et un enjeu pour tous, même au niveau du comité exécutif et des dirigeants des sociétés.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est vraiment un point très très fort qu'on observe en ce moment. C'est le grand retour des DRH de niveau comité exécutif sur nos sujets, puisque comme je le disais, désormais cette crise et les risques sanitaires et sécuritaires concernent tous les salariés et plus seulement les salariés mobiles. Eh bien, c'est ce qui déclenche le retour des DRH sur nos sujets, puisque ça touche à l'organisation du travail, au home office et à tous ces aspects et comment mettre en place les bons protocoles sanitaires pour repartir. Donc alors qu'on avait plutôt des responsables sécurité ou des travel managers sur nos sujets, on sort quand même d'une grosse décennie avec des problèmes sécuritaires, hein, le printemps arabe, la vague d'attentats terroristes, et les DRH avaient tendance à déléguer à ces fonctions sécurité ou travel manager nos sujets, et aujourd'hui ils reprennent vraiment le gouvernail sur ces sujets-là, tout en gardant les responsables sécurité ou travel manager ou health and safety impliqués, mais c'est vraiment les DRH qui reviennent en force en commande.
Mais ce que l'on peut retenir de tout ce que vous venez de nous dire, Frédéric Balme, finalement, c'est que les règles sanitaires et l'arrêt de la propagation du coronavirus, elle est l'affaire de tous, et c'est bien pour ça que vous travaillez et que vous travaillez avec les entreprises depuis Francfort. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur régional Europe continentale du groupe SOS et vous êtes basé à Francfort, donc, et vous nous expliquez que vous, ça fait 2 semaines hein, que le masque est obligatoire dans votre entreprise suite à une décision de votre part. Allez, tout cet été, BFM Business vous propose de réécouter les meilleurs moments de nos émissions. Et là, on va s'arrêter sur la start-up Teddy Bear. Teddy Bear, vous savez, ce sont ces matelas qu'on achète sur Internet. C'est un reportage de Justine Vassogne et Olivier Mélan.
Et aujourd'hui, on est dans le 4e arrondissement de Paris, devant la boutique de Teddy Bear, le spécialiste des matelas en ligne. Teddy Bear qui s'est fait un peu peur pendant le confinement, mais qui a très vite sorti la tête de l'eau. On va voir ça.
Le foutage matelas, en fait, c'est une malaise.
D'accord.
Et le matelas, par contre, vous avez de base la housse que vous pouvez enlever.
Dans la boutique de Teddy Bear, les clients se succèdent. La vie a repris après des débuts difficiles pendant le confinement. Julien Sylvain est l'un des fondateurs de Teddy Bear.
Les premières semaines du confinement ont été catastrophiques pour l'activité. On faisait 20 à 30% du chiffre d'affaires de l'année précédente.
Très vite pourtant, Julien Sylvain s'est rassuré. Après quelques semaines d'attentisme, les clients ont recommencé à commander des matelas sur le site de Teddy Bear et ils sont de plus en plus nombreux chaque jour.
La dynamique est vraiment très bonne en ce moment. Maintenant, on a un niveau d'activité qui est 2 fois supérieur à celui de l'an dernier. Pareil, la dynamique sur l'ameublement qui est très forte. Les clients ont envie d'avoir des bons produits chez eux, peut-être en cas de reconfinement. Et ensuite, nous, on a un modèle qui est très simple, avec une offre qui est très courte, qui est produite pas loin. Et cette offre, elle permet vraiment c'est un turbo pour nous aujourd'hui, ça nous a protégé pendant la crise et c'est vraiment une aide pour aujourd'hui.
Cette offre très courte proposée par Teddy Bear, c'est un unique modèle de matelas vendu 650 euros pour un lit 2 places et produit en Belgique et en France. Un matelas comprimé et roulé dans une boîte de 40 cm de diamètre, livré en 48 heures maximum au client qui pourra l'essayer jusqu'à son nuit et le retourner s'il n'est pas satisfait. Julien Sylvain, quand il a eu l'idée de Teddy Bear il y a 5 ans, est parti d'un constat. Acheter un matelas n'est pas si simple.
C'est un achat qui est très compliqué à réaliser. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du matelas, donc déjà on doit faire confiance à la marque. Et aussi, on n'arrive pas à décoder le jargon technique qui est utilisé. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des écarts de prix qui vont être très importants, parfois dans la même marque. On va avoir un matelas à 400 euros et un autre à 1800 euros, mais heureusement, il est en promotion. Donc on a vraiment un brouillard sur l'achat du matelas.
Profiter de ce brouillard pour se faire une place sur le marché, c'est le pari pour le moment réussi de Teddy Bear. La start-up voit grand. Elle veut ouvrir de nouvelles boutiques, élargir sa gamme, aller titiller les grands du secteur. Avec un rythme annuel de 30% de croissance, cela ne paraît pas infranchissable, mais pour le moment, avec ses 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle ne pèse que 2% sur le marché du matelas français.
Et voilà, tous les jours, vous savez qu'on met à l'honneur ces entreprises qui résistent et qui repartent sur BFM Business. Restez avec nous. Il y a une qui résiste très 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 bien, c'est Apple. On va en parler dans un instant dans le journal. Apple qui a atteint 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. On vous explique tout ça et puis on ira aussi du côté de la Biélorussie, voir comment ça peut se passer maintenant que l'Union européenne a indiqué qu'elle ne reconnaissait pas la réélection du président Lukashenko. À tout de suite.
BFM Business. Inside avec Karine Verniolle.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes encore ensemble durant une demi-heure. Pour l'instant, il est 19h et à la une ce soir, Apple qui devient la première société américaine à atteindre 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il y a tout juste 2 ans, c'était déjà la première à franchir la barre des 1000 milliards. On vous explique tout ça dans un instant. La Biélorussie également à la une ce soir. L'Union européenne ne reconnaît pas la légitimité du président Loukachenko. 11e jour de manifestation contre sa réélection. Le président ordonne de mettre fin à la contestation, décryptage de la situation avec une experte de la région. Dans quelques minutes, pour l'heure, c'est le journal. Et on retrouve Marie Valogne pour le journal. Marie, on va voir comment ça se passe du côté de Wall Street. C'est vrai qu'on avait atteint de nouveaux records hier. Aujourd'hui, on hésite un peu plus.
Oui, hier, c'était un record historique pour le S&P 500. L'indice a effacé les pertes subies au début de la pandémie aux États-Unis. On retrouve à New York Sabrina Quagliozzi. Sabrina, comment explique-t-on cette euphorie sur les marchés américains ?
Eh bien, c'est tiré essentiellement par ces mesures de soutien sans précédent du gouvernement américain. Et puis aussi par l'optimisme des opérateurs sur la reprise économique, sur les résultats. On en a encore eu pas mal aujourd'hui. Et donc, au final, effectivement, là, ce S&P 500 que l'on surveillait déjà depuis quelques séances, qui termine au-dessus de son record précédent qui a été fixé au 19 février dernier. C'est tout simplement ça met fin au bear market. Le plus court bear market de l'histoire des États-Unis, le S&P 500 qui est en hausse environ de 5% depuis le début de l'année. Et tous les secteurs ont participé à cette hausse. Tous les investisseurs aussi ont été présents, les investisseurs institutionnels, les petits boursicoteurs, grâce notamment au carton Robinhood, cette application sans commission qui fait un carton notamment du côté des millennials. Et des investisseurs qui ont été pris dans ce phénomène que l'on appelle ici le phénomène TINA, à savoir « There is no alternative to stock », c'est-à-dire qu'avec des taux bas, il n'y a que le marché action si on veut un retour sur un investissement. Le compartiment technologique, c'est tout particulièrement bien distingué. Vous parliez tout à l'heure d'Apple. Effectivement, Apple qui passe le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est une première, première société qui a fait ça et qui, depuis le début de l'année, a déjà grimpé de 60% pratiquement. C'est pas tout, il y avait Apple, Amazon ou encore toutes ces valeurs technologiques qui ont aussi permis bien sûr au Nasdaq d'enregistrer des records, 34 records en clôture pour l'indice Nasdaq quand même, qui est en hausse de 25% depuis le début de l'année.
Merci Sabrina Quagliozzi, on vous retrouve à la fin du journal dans quelques minutes pour faire un point plus détaillé sur les valeurs. Marie,
c'est l'un des secteurs les plus touchés par la crise. Roselyne Bachelot on recevait aujourd'hui les professionnels de la culture. Jauge, port du masque, soutien financier. Si les acteurs du secteur ont le sentiment d'être entendus, beaucoup de questions restent encore en suspens. Écoutez la réaction de Bertrand Tamin. Il est président du syndicat national du théâtre privé.
Pour ce qui est des spectateurs, il y a consensus maintenant. Elle s'est tout à fait rangée à nos demandes. Le consensus, c'est port du masque obligatoire et pas de distanciation physique. Ce qui reste à faire, encore une fois, c'est sur proposition du ministère de la Culture que le Conseil de Défense avalise le fait qu'il n'y a plus de distanciation physique dans les théâtres. Alors, le bilan de cette réunion, c'est beaucoup d'espoir, parce qu'on se sent soutenu et écouté, mais il n'y a pas eu de réponse encore, parce que la ministre doit se tourner tantôt vers le Conseil de Défense pour avoir des réponses, tantôt vers Bercy pour avoir des fonds, tant pour les mesures de soutien que pour les mesures de relance. Nous, on a fait état de nos besoins. Ils ont été compris. Et maintenant, il faut desserrer le cordon de la bourse. Et j'ai la faiblesse de penser qu'en France, ce n'est pas la ministre de la Culture, le cordon de la bourse, c'est plutôt Monsieur le maire à Bercy.
Et voilà, Bertrand Tamin, président du syndicat national du théâtre privé. Dans le reste de l'actualité, on a cette alliance conclue et confirmée entre Bernard Arnault et Arnaud Lagardère.
LVMH a approuvé la prise de participation de 27% du milliardaire au sein de la holding du groupe Lagardère. Son patron espère désormais peser dans les décisions du groupe. C'est une nouvelle victoire pour Arnaud Lagardère. Laura Cambeau.
Avec cette prise de participation, c'est une bouffée d'air frais pour la holding d'Arnaud Lagardère et donc pour ses finances. Une partie de ses dettes a été épongée à hauteur de 80 millions d'euros, des dettes qui se chiffraient à 214 millions à la fin de l'an dernier. Cette baisse de l'endettement est cruciale pour Arnaud Lagardère. Selon les statuts de l'entreprise, il est responsable personnellement des dettes de la holding. C'est une nouvelle bonne nouvelle pour le dirigeant, deux jours après son renouvellement à la tête du groupe. Avec le patron de LVMH à ses côtés, il trouve un soutien de poids face à ses deux ennemis et actionnaires principaux, le fonds Amber et Vivendi. Ils avaient tenté d'obtenir des sièges au conseil d'administration sans succès. Malgré ces deux déroutes, ils pourraient continuer de poursuivre leur objectif, tenter de défaire la commandite pour évincer Arnaud Lagardère.
L'Union européenne ne reconnaît pas le résultat de la présidentielle au Bélarus. Déclaration du président du Conseil à l'issue du sommet extraordinaire des 27. Charles Michel assure que l'Union est aux côtés du peuple. Des sanctions seront bientôt prises contre un nombre important de dirigeants du régime d'Alexandre Loukachenko. Il les accuse d'être responsables de violences, répressions et fraudes électorales.
Sachez que les premiers casinos vont bientôt ouvrir au Japon.
Et oui, le pays n'en comptait aucun jusqu'à présent. La société française Partouche s'est engagée dans un partenariat avec un groupe japonais, partenariat pour exploiter l'un de ses nouveaux casinos. Ils vont répondre à un appel d'offres mené par le gouvernement. Virginie Cook.
Le Japon, futur Eldorado pour les opérateurs de casinos. Ce sont trois méga complexes de loisirs qui vont voir le jour avec casinos, centres de congrès, hôtels, restaurants, boutiques. L'objectif pour le pays, relancer l'économie grâce au tourisme du jeu, particulièrement dynamique en Asie, comme le souligne Fabrice Père, le président du groupe Partouche.
Il y a encore 10 ans, au Japon, c'est 6 millions de touristes internationaux. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 30 millions et avec une volonté dans 10 ans de doubler à 60 millions. Donc il y a la nécessité de développer des installations et ces intégrated resorts en fait sont véritablement là pour capter ce tourisme.
Le groupe Partouche aura un rôle d'exploitant et non d'investisseur. Le potentiel du Japon est immense pour le numéro 2 français des casinos. Selon les experts, le volume de l'activité de jeux potentiels s'élèverait entre 8 et 20 milliards de dollars. À titre de comparaison, l'intégralité de l'activité en France ne représente que 2,4 milliards.
En Inde, une compétition toute particulière fait rage, celle de la pharmacie en ligne face à Amazon qui a débarqué sur ce marché la semaine dernière. C'est désormais un acteur local de premier plan qui va investir 83 millions de dollars dans le secteur, le e-commerce et le médicament. La combinaison gagnante visiblement en ce moment en Inde. Léonard Cassette.
1,3 milliard d'habitants, particulièrement jeunes et connectés. Un pays plus ouvert que la Chine pour les grandes firmes américaines, d'où l'explosion des investissements dans l'e-commerce en Inde ces dernières années. Amazon y est leader, suivi de son concurrent local Flipkart, une filiale de Walmart depuis 2 ans. Face à eux, c'est le conglomérat indien Reliance, propriété de l'homme d'affaires le plus riche d'Asie. À la faveur du coronavirus dont le bilan dépasse les 2,8 millions de cas en Inde et du boom de la demande pour les services de santé, les trois géants sont sur le point de livrer bataille sur le front de la pharmacie en ligne. Si Amazon est déjà présent dans la ville de Bangalore, Reliance annonce investir 83 millions de dollars dans NetMeds, une société qui relie les clients aux pharmaciens et qui permet la livraison à domicile dans plus de 670 villes. Pour les analystes, le marché indien de la santé est colossal. Il devrait d'ailleurs peser 25 milliards de dollars d'ici 2025, soit 5 fois plus qu'aujourd'hui.
Brittany Ferries réduit ses traversées entre la France et l'Angleterre. La compagnie fait face à une baisse de fréquentation avec la quarantaine britannique. Quarantaine mise en place par Londres pour les voyageurs venant de France. Elle a déjà enregistré 35 000 annulations ou reports de voyages depuis le week-end dernier. Brittany Ferries va aussi mettre certains salariés au chômage partiel.
Merci Marie. Marie Vallon, on vous retrouve à 20h pour un nouveau journal. Nous, on fait un point sur les marchés. À Paris, le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,79% à 4 977 points. Et Sabrina Kouaghiozzi, alors mis à part cette capitalisation boursière à plus de 2 000 milliards de dollars d'Apple, qu'est-ce qui se passe du côté de Wall Street ?
Ah bah écoutez, on continue de parler du secteur retail, bien sûr, avec la publication des géants du secteur. Après Walmart hier, c'était au tour ce matin de Target de publier ses résultats trimestriels et des chiffres qui sont sortis nettement au-dessus des attentes. Hein, un résultat net déjà qui a grimpé de 80%, des ventes records, une activité internet en ligne, bien sûr, qui s'est envolée. Et le patron de Target qui parle pour expliquer ces solides résultats de l'annulation des Américains, des vacances des Américains. Le titre Target est en belle hausse. On a également Lowe's dans le bricolage qui a publié ses résultats trimestriels, a aussi des chiffres supérieurs aux attentes. Le titre malgré tout est un petit peu faible, à moins 0,3%, mais la tendance est positive. Karine, le Nasdaq sur de nouveaux records, plus 0,22%, on est à 11 235 points. Le Dow Jones également en hausse, plus 0,2%. On a également le S&P 500 qui est en progression, plus 0,2%, 3395, peut-être donc un nouveau record ce soir à la clôture. Et Apple, donc plus 1,2%, $467.68. Allez, pour terminer, Tesla, plus 0,5%, juste en dessous des $1900.
Eh bien, on va suivre ça avec vous s'il y a un nouveau record à la clôture. Merci beaucoup, Sabrina Kouakdioudi, en direct depuis New York. Allez, restez avec nous. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 19h30 dans Inside. On va voir avec Galia Ackermann ce qu'il en est de cette situation en Biélorussie après le sommet extraordinaire de l'Union européenne aujourd'hui qui a annoncé quelques sanctions contre le président Loukachenko. Est-ce que ça va suffire? On va voir ça avec elle.
BFM Business Inside avec Karine Verniol.
Et donc, en Bélarus, les taux se resserrent autour du président, sur le président Alexandre Loukachenko. L'Union européenne tenait un sommet extraordinaire sur le sujet. Aujourd'hui, les 27 ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité du président réélu. Ils s'apprêtent également à sanctionner de nombreux dirigeants. Galia Ackermann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Donc, on le rappelle, président de la Biélorussie depuis 1994, Alexandre Loukachenko a été réélu pour son sixième mandat le 9 août, officiellement avec plus de 80% des suffrages. Évidemment, c'est une réélection très contestée qui a donné lieu à de nombreuses journées de manifestations, de heurts également entre policiers et manifestants. L'Union européenne se dit aux côtés du peuple et va bientôt imposer des sanctions sur un nombre substantiel de personnalités, on nous dit aujourd'hui. Est-ce que c'est la réaction que vous attendiez ?
Je crois en tout cas que c'est une réaction complètement méritée par le régime de Loukachenko, mais il faut dire que les sanctions personnelles souvent n'ont pas beaucoup d'importance pour les dictatures parce que dans le régime de Loukachenko, ni lui-même, ni probablement les gens qui lui sont proches n'ont pas nécessairement des comptes en banque à l'étranger. Je pense que même ils en ont, c'est par des amis, des proches, etc., etc. Et donc, quelles peuvent être les sanctions, l'interdiction de visiter l'Union européenne, l'interdiction d'y détenir leur argent, mais tout ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, une action symbolique très forte. Mais en fait, pour que le régime souffre réellement, il faut, comme pour la Russie, des sanctions sectorielles.
Mmh. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des sanctions d'ordre économique ?
Oui, bien sûr. Par exemple, interdire certaines importations, certaines exportations, etc., etc. Créer des difficultés aux banques biélorusses. Ça, c'est des choses qui peuvent avoir un impact, mais vous voyez aussi avec l'exemple de la Russie que, à partir de 2014, il y a déjà 6 ans, que les sanctions de l'Union européenne, de tous les pays occidentaux, dont les États-Unis, sont renouvelées, renforcées, etc., etc. Ça crée des problèmes à la Russie et néanmoins, pour l'instant, le régime de Poutine tient. Je dirais qu'en règle générale, nous l'avons bien vu, par exemple, avec la Syrie et avec le Venezuela, les régimes dictatoriaux tiennent tant que l'armée et les services de sécurité, les services spéciaux reste fidèle. Et je dois dire que maintenant, bien sûr, il y a eu 10 jours de protestation. Il y a aussi des grèves très importantes dans plusieurs secteurs clés de l'économie biélorusse. Et justement, hier, Loukachenko a décerné des décorations à 300 officiers des services spéciaux et de l'armée qui ont participé à mater la rébellion. Tant que la force est avec Loukachenko, je crains qu'il sera assez difficile de le déboulonner. Mm-hmm. La fin de ce régime s'approche, mais peut-être pas tout de suite.
Et oui, effectivement, tant que l'armée, tant que la force est encore du côté du pouvoir, ça peut être compliqué malgré les sanctions économiques. On rappelle que le Bélarus est toujours sous le coup d'un embargo sur les ventes d'armes et de matériel pouvant être utilisé pour la répression. Mais ça ne l'entache pas vraiment. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, Galia Ackermann, sur quoi repose l'économie bélarusse? Si je ne m'abuse, c'est une économie qui dépend énormément de toute façon de Moscou aujourd'hui.
Absolument. Vous savez, la Biélorussie, à l'époque soviétique, quand elle était une république soviétique, a été un peu l'équivalent de l'Allemagne de l'Est pour le reste du soi-disant camp socialiste, c'est-à-dire les pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. C'était en quelque sorte un pays modèle qui a été énormément détruit pendant la guerre. Et après la guerre, l'industrie très performante y a été construite. Par exemple, la Biélorussie fournissait les tracteurs ou les camions pour toute l'Union soviétique. Et à ce jour, il y a beaucoup d'entreprises biélorusses, et justement des secteurs de pointe, qui contribuent très fortement à fournir soit les pièces, soit des armements à la Russie. Il y a à peu près 25% des exportations biélorusses qui sont dans des secteurs de l'industrie lourde et des armements, et dont la Russie est l'acheteur principal. Et d'ailleurs, maintenant, la Russie menace déjà le complexe militaro-industriel russe, menace la Biélorussie de sanctions pour la non-livraison de pièces qui sont attendues et qui sont nécessaires pour la bonne performance du secteur militaire russe.
Sachant que Moscou fournit du gaz et du pétrole fortement à la Biélorussie avec des conditions financières très intéressantes. Et ce dont on s'aperçoit, et c'est peut-être aussi pour ça que les sanctions économiques ne peuvent pas être très importantes sur la Biélorussie venant de l'Union européenne, c'est que finalement il y a très peu d'échanges entre l'Union européenne, finalement entre les autres pays d'Europe et la Biélorussie. Je parle d'échanges commerciaux.
Il y a quand même un secteur où il y a pas mal d'échanges, c'est-à-dire, en effet, la Russie reçoit aussi bien le gaz que le pétrole en grande partie de la Russie. Et, par exemple, les appels à diversifier qu'on attend, par exemple, de la part de la Pologne, les appels à la Biélorussie de diversifier ses livraisons de gaz et de pétrole, c'est très difficile de mettre en œuvre. Parce que la Biélorussie, il ne faut pas oublier qu'il existe une union supranationale entre la Russie et la Biélorussie qui, à terme, doit amener une fusion complète entre les deux pays. Et donc, la Russie fournit à la Biélorussie, par exemple, le pétrole brut que la Biélorussie transforme en produit pétrolier dans ses usines pétrochimiques et revend ensuite à d'autres pays, notamment l'Europe, mais la Biélorussie pourrait éventuellement aussi diversifier ses ventes si l'Union européenne impose des sanctions. Et donc, en grande partie, l'économie de la Biélorussie est fondée sur ces prix très privilégiés pour le gaz et le pétrole en provenance de la Russie.
Et oui, et donc assez peu d'échanges avec l'Union européenne finalement. Donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, on ne sait pas encore ce que vous disiez, Galia Ackermann, en début d'entretien, c'est que on sent que quelque chose bouge, mais ça ne devrait pas être tout de suite. Loukachenko ne devrait pas être renversé tout de suite. Mais finalement, est-ce que c'est pas la Russie qui sortira de toute façon gagnante de ce conflit?
C'est ce que j'ai essayé de dire dans un entretien que j'ai publié sur Figaro Vox. Je pense qu'il est très probable, malgré le fait que ces protestations maintenant sont très massives et des millions de personnes sont mobilisées, la fraude a été totalement évidente. C'est un petit pays, on ne peut pas tout cacher. Mais il faut dire que si Loukachenko tombe, il ne faut pas l'oublier, si Loukachenko tombe, Poutine sera le suivant. C'est-à-dire, Poutine a le rêve de réunir les peuples slaves, les Biélorusses et les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ça n'a pas marché jusque-là, sauf l'annexion de la Crimée et la guerre fomentée dans le Donbass. Mais la Biélorussie a été considérée jusque-là comme quelque chose de plus ou moins acquis. Maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout acquis. Mais Poutine doit être maintenant devant un affreux dilemme. Soit intervenir s'il le faut en Biélorussie et donc se soumettre à des sanctions encore plus drastiques, alors que là, contre la Russie, il y a déjà des sanctions sectorielles très lourdes. Ou bien le risque de perdre la Biélorussie, et ce sera probablement le début des dominos qui tombent.
Et l'information que nous avons aujourd'hui, selon Charles Michel, c'est que la Russie n'a pas l'intention d'intervenir militairement en Biélorussie. C'est ce qui est dit aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. On va continuer à suivre ça de très près. Merci, Galia Ackermann, pour votre décryptage de cette situation en Biélorussie. Je rappelle que vous êtes spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
BFM Business Inside, au cœur de l'écho.
Et au cœur du monde qui bouge, donc suite à cette interview, il y a aussi notre éditorialiste maison, Benaouda Abdennaïm, qui observe ce monde qui bouge au quotidien. Et aujourd'hui, il vous raconte cette possibilité qu'il pourrait y avoir de construire un pont entre l'Écosse et l'Irlande du Nord.
BFM Business, le monde qui bouge. Benaouda Abdennaïm.
Un pont reliant l'Écosse à l'Irlande du Nord. Le Premier ministre britannique en a soumis en décembre l'idée à Dublin. Et d'après le gouvernement irlandais, Boris Johnson a suggéré de façon informelle que ce soit l'Union européenne qui finance le projet. À toutes fins utiles, le précédent Premier ministre irlandais a rappelé que puisque ni l'Écosse ni l'Irlande du Nord ne feront partie de l'Union européenne après le Brexit, il n'y a pas matière à justifier ce financement européen. Mais si ce malentendu venait un jour à se dissiper, pourquoi pas discuter de l'intérêt stratégique de cet ouvrage. À Dublin, on a évoqué avec enthousiasme le précédent du pont entre le Danemark et la Suède, ou bien le tunnel sous la Manche. Il va déjà falloir déterminer le tracé. Celui qui semble être privilégié serait long de 32 km. Outre la question budgétaire, au moins 20 milliards d'euros à réunir, une étude de faisabilité devrait être lancée par Londres, si tant est que la crise pandémique le permette encore. Le gouvernement irlandais juge surtout qu'il y aurait mieux à faire. Dublin préférait développer les liaisons avec le nord de l'île, une ligne ferroviaire à grande vitesse, Belfast, Dublin, Cork, et puis développer l'une des principales autoroutes nord-irlandaises qui mène vers la République d'Irlande. L'idée de relancer un canal sud-nord de 74 km, bâti au début du 19e siècle, est actuellement désaffecté. Autre projet cher à Dublin, une université technologique transfrontalière. Avec de tels projets d'infrastructure au cœur de l'île, le Sud peut vouloir modifier le sens essentiel des intérêts du Nord post-Brexit vers Dublin plutôt que vers Londres. L'angle de vue dans la capitale britannique, et cela va de soi tout autre, pour le gouvernement de Boris Johnson, un pont entre deux provinces britanniques, cela représente aussi un facteur de consolidation de l'unité menacée du royaume. Un député nord-irlandais a affirmé qu'avec cette réalisation grandiose, il regagnerait toute la confiance des unionistes fidèles à la couronne britannique.
Et on continue notre tour du monde dans Inside dans quelques instants, puisque nous découvrirons une nouvelle innovation commerciale du côté de Séoul. Et puis ensuite, ce sera un rappel de l'actualité. À tout de suite.
BFM Business, Inside, au cœur de l'écho.